Laudetur Jesus Christus.
mille personnes souffrent de malnutrition dans le Tigré en Éthiopie, dont 30 000 enfants. Pour la première fois depuis le début du conflit, les Nations Unies parlent de famine, un mot fort qui pourrait mettre la pression sur Addis Abeba. Le partage des vaccins à travers le monde, le sujet est discuté au G7 et également à la COMECE, la Commission des Épiscopats de l'Union Européenne. Nous entendrons à ce sujet Monseigneur Ulrich. Nous vivons dans un village global et les vaccins doivent être partagés, répète le patron de la COMECE. Dans ce journal également, Cuba qui suspend les dépôts bancaires en dollars, la chasse aux opposants politiques qui se poursuit au Nicaragua, les évêques du pays appellent le président à les libérer. Et puis dans notre dossier, notre invité ce matin sera le cardinal de Kézel. Il revient sur la place de l'Église catholique dans une société sécularisée, une occasion à saisir selon lui.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. Peut-on parler de famine aujourd'hui en Éthiopie dans la région du Tigré? Oui, affirme le chef de l'agence humanitaire des Nations Unies. La région connaît en effet des niveaux de malnutrition records, 7 mois après le début de la guerre civile entre le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens. Les chiffres sont catastrophiques, mais Addis Abeba refuse absolument l'utilisation du mot famine, un mot qui pourrait accroître la pression internationale sur le gouvernement. Les explications de Noé Oshébona.
C'est un document qui pourrait bien faire changer l'attitude internationale sur la guerre au Tigré. Une étude des Nations Unies montre que sur 6 millions de Tigréens, 350 000 ont atteint un niveau de malnutrition catastrophique. Marc Lecoq préfère, lui, un autre terme. Le chef humanitaire de l'ONU parle bel et bien de famine. « C'est la pire situation d'insécurité alimentaire que j'ai vue depuis des années », avoue-t-il. Les États-Unis sont à la manœuvre sur ce dossier après avoir sanctionné l'Éthiopie. Washington tente désormais de porter le sujet au Conseil de sécurité de l'ONU, où le Tigré devrait être au centre des débats mardi prochain. Côté éthiopien, on ne sait que trop bien la puissance politique que confère le mot famine. La catastrophe de 1984 dans cette même province du Tigré avait provoqué une vague d'indignation à l'international. Alors enlisé dans cette guerre depuis 7 mois, le gouvernement éthiopien refuse coûte que coûte l'utilisation du mot famine. Pour éteindre le feu, les autorités avancent au contraire que 90% des Tigréens reçoivent de l'aide humanitaire. Addis Abeba, Noé Oshébodin, Radio Vatican.
Au Mali, le colonel Goïta, dirigeant de la transition, a formé son gouvernement. Les principaux ministères régaliens reviennent aux mains des militaires. Par exemple, le colonel Sadio Camara, un des meneurs du coup d'État d'août 2020, retrouve la défense. Il avait été évincé de ce poste par le gouvernement civil de transition. On reste au Mali. La France a annoncé hier la mort d'un cadre djihadiste du groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il s'agit de Baye Ag Bakabo. C'est lui qui est notamment responsable de l'enlèvement des 2 journalistes de RFI, assassinés en novembre 2013. Le sommet des pays du G7 continue ce week-end dans le sud de l'Angleterre. Au centre des discussions, l'urgence climatique, le partage des vaccins contre la Covid-19, mais également la défense du multilatéralisme. Les pays du G7 saluent le retour des États-Unis à la table des négociations. Les évêques membres de la COMECE, la Commission des Épiscopats de l'Union Européenne, ont été reçus hier par le pape François au Vatican. L'occasion d'aborder de nombreux sujets, à commencer bien sûr par l'Europe. C'est toujours un plaisir de parler de l'Europe avec le Saint-Père, a relevé le cardinal Jean-Claude Ulrich à l'issue de cette rencontre. Et tandis que le sujet est discuté au G7, nous avons demandé au président de la COMECE de revenir sur l'importance d'une vaccination ouverte aux plus pauvres contre la Covid-19, comme le plaide le pape François et dans son sillage les églises d'Europe. On l'écoute.
Je vois quand même que la situation en Europe est en train de s'améliorer. Un peu d'angoisse encore pour le Royaume-Uni, où les chiffres montent de nouveau avec la nouvelle mutation. Mais justement, ces nouvelles mutations devraient nous montrer que l'Europe peut seulement être en sécurité quand toute la population de ce monde aura accès à des vaccins. Nous vivons dans un village global, globalisé. Et ce qui est d'une part, disons, l'exigence d'une morale chrétienne et d'autre part aussi la sagesse d'une politique d'hygiène et de médecine. Je suis très heureux que dans la déclaration commune entre les évêques de la COMECE et les évêques des États-Unis, nous avons justement plaidé pour un accès au vaccin de tous. Et nous ne pouvons pas nous taire, nous devons répéter ce message pour le bien des autres, mais aussi pour le bien de nos citoyens européens.
Monseigneur Olrich, président de la COMEC, il était interrogé par Stéphane Van Kempis, notre confrère de la rédaction allemande de Radio Vatican. La péninsule italienne entend renforcer sa lutte contre les pirates informatiques et notamment les pirates russes. L'Italie annonce la création d'une agence gouvernementale spécialisée en cybersécurité, tandis que les attaques informatiques se multiplient dans le pays. Peu d'avancées dans les négociations pour un cessez-le-feu au Yémen. Venu chercher le soutien de l'Union européenne à Bruxelles, le chef de la diplomatie yéménite accuse les rebelles houthis de contrecarrer les efforts de négociation en continuant leur tentative de s'emparer de la ville de Marib, dernier bastion du pouvoir central dans le nord du pays. Cuba suspend les dépôts bancaires en dollars pour protéger son économie et faire face à l'embargo américain. Voici les raisons avancées de cette nouvelle mesure. Le gouvernement avait ouvert aux Cubains la possibilité d'avoir des comptes en dollars en 2019 dans l'objectif de récupérer dans ses caisses des devises. La suspension des dépôts de dollars sur ses comptes soulève donc des doutes et des interrogations. Les réponses avec Domiti Piron.
Pourquoi une telle mesure? Depuis novembre 2019, les Cubains ont la possibilité d'avoir un compte en devises sur lesquels ils peuvent recevoir de l'argent de l'étranger et qu'ils peuvent aussi alimenter en monnaie physique, billets verts, euros, livres sterling. Des comptes bancaires qui permettent notamment d'accéder aux magasins d'alimentation en devises qui sont les mieux achalandés en cette période de crise et de pandémie et qui ont également permis de renflouer les caisses de l'État en monnaie forte. Mais voilà, à partir du 21 juin, les dollars en liquide ne seront plus acceptés. La Banque centrale cubaine explique qu'elle rencontre des difficultés à l'étranger à faire accepter, à déposer, convertir ou échanger la monnaie américaine dans d'autres institutions bancaires ou financières internationales. Cette mesure se justifie donc officiellement par l'embargo américain qui pèse sur Cuba depuis 1962 et dont les sanctions ont été accrues par l'administration de Donald Trump. Mais pour certains, il s'agit plutôt d'une mesure destinée à contrôler le marché noir du dollar. Dans la rue, le billet américain s'échange contre des pesos cubains à plus du double de sa valeur officielle. Cette mesure intervient également dans un contexte de forte dévaluation du dollars sur le marché mondial. Domiti Piron, La Havane, pour Radio Vatican.
Pas de graves irrégularités dans le scrutin présidentiel au Pérou. C'est le constat de l'Organisation des États américains qui salue un processus électoral positif. Le ou la vainqueur de la présidentielle de dimanche dernier n'a toujours pas été donné officiellement. La candidate de droite, Keiko Fujimori, a réclamé un recompte des voix, toujours en cours. À 5 mois de l'élection présidentielle, la chasse aux opposants se poursuit au Nicaragua. 5 candidats ont été arrêtés depuis le début du mois, dont 4 en une semaine. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez ainsi que les évêques du pays appellent le président Daniel Ortega à les libérer. Manuela Figi.
Nous voulons un Nicaragua qui soit libre et démocratique, implorent les évêques, et pour cela ils demandent au régime sandiniste la fin des restrictions arbitraires et illégales des libertés des citoyens, la fin de la persécution des opposants, des médias, la fin de la situation persistante d'injustice, de l'état de siège et du harcèlement politique. Depuis le Costa Rica voisin où il se trouve en visite officielle, Pedro Sanchez abonde dans le même sens, jouer fair play, libérer les opposants, a-t-il lancé hier à l'intention de Daniel Ortega. L'ancien guerriero au pouvoir depuis 2007 se pave une voie royale vers un 4e mandat à l'élection présidentielle de novembre en faisant le vide autour de lui. Les potentiels candidats rivaux, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro ou encore Cristiana Chamorro ont été arrêtés, assignés à résidence, soupçonnés qui de blanchiment d'argent, qui d'incitation à une intervention étrangère. En guise de représailles, les États-Unis ont pris des sanctions économiques contre plusieurs membres de la famille Ortega. Reste à savoir si elles feront effet. Depuis 2018, l'emprise autoritaire du président sur son pays se resserre et sa probable victoire en novembre devrait la parachever, malgré les appels répétés de la société civile et de l'épiscopat à un scrutin libre et transparent où s'exprimerait la volonté du peuple souverain.
Manuela Afigi. L'armée a tué des milliers de civils dans la lutte contre les FARC. L'aveu est du président colombien Juan Manuel Santos. Des milliers de personnes civiles ont donc ainsi été exécutées et présentées comme des guerrieros morts au combat. Des faux positifs pour faire monter les chiffres et prouver l'efficacité des militaires dans la lutte contre la guérilla. Le scandale avait été révélé en 2008 et la Commission de la vérité en Colombie poursuit aujourd'hui son travail. <t'-> Ce matin, dans notre dossier de la rédaction, le cardinal Joseph de Kessel, archevêque de Malines-Bruxelles en Belgique, il vient de publier un livre intitulé « Foi et religion dans une société moderne » paru aux éditions Salvator. Dans cet ouvrage, le cardinal belge présente sa vision du rôle de la foi chrétienne dans une société moderne et sécularisée. L'Église catholique est invitée au dialogue et à la rencontre avec les autres, croyants et non-croyants, pour mieux situer sa propre identité à l'instar des communautés chrétiennes du monde entier qui, au fil de 2000 ans d'histoire, se sont souvent développées dans des environnements non chrétiens. Le cardinal de Kessel nous rappelle donc ce matin que la liberté religieuse ne peut s'épanouir que dans un contexte de pluralisme dans lequel aucune religion n'impose sa loi à l'ensemble de la société. On l'écoute.
C'est clair que dans une culture religieuse chrétienne, il n'y avait pas de vraie liberté religieuse. Dans une culture religieuse, les minorités sont toujours en danger. Dans la période de la chrétienté, c'était le sort des juifs. Pour le moment, par exemple, dans les cultures musulmanes, où l'islam est la religion culturelle, le chrétien est un peu un citoyen de deuxième ou de troisième rang. Donc la liberté religieuse, c'est un fruit de la modernité. Le pape Jean XXIII l'a dit, hein, comprendre les signes du temps. Et là aussi, l'Église a évolué. Et c'est comme ça que je dis que le Concile Vatican II a été vraiment un concile providentiel qui a ouvert certaines portes. Mais imaginez-vous qu'on n'a pas eu le Concile Vatican II, on serait dans une impasse aujourd'hui.
Votre réflexion, bien sûr, est développée à partir de la situation européenne et belge. Mais est-ce que, comme l'avez laissé entendre, est-ce que c'est aussi une invitation à ce que le pluralisme religieux deviennent aussi quelque chose de plus accepté dans des sociétés différentes, notamment par exemple en Afrique du Nord, pour que les chrétiens aussi puissent vivre leur foi de façon plus libre aussi dans ces contextes différents?
Oui, je l'espère. Hein. On a eu besoin de beaucoup de temps, hein. Nous autres aussi, l'Église catholique. Hein. Quand on voit encore, jusque dans les années 50, cette difficulté à accepter ce changement de culture. Mais l'islam ici en Occident se trouve devant la même situation. Je pense que l'islam devra aussi s'intégrer dans cette culture. Ce n'est pas la charia qui deviendra la loi ici. Ce n'est pas bon pour notre société s'il y a une seule religion et la religion culturelle est dominante.
Dans les relations entre l'Église catholique et les autres religions et courants philosophiques qui animent nos sociétés, comment faire preuve de respect et d'amitié sans renoncer à sa propre identité, à ses propres racines et donc au témoignage de la foi en Jésus-Christ?
S'il y a vraiment respect de l'autre, c'est à partir de sa propre identité. C'est toujours comme ça. Imaginez-vous un enfant qui vient de naître et on doit l'éduquer. Imaginez-vous qu'on dit « il ne faut parler avec personne, tu es libre, tu fais ce que tu veux ». Il ne fera jamais quelque chose dans sa vie. C'est dans la rencontre de l'autre que je découvre moi-même et que je construis moi-même. C'est ainsi aussi pour le croyant. C'est l'amitié qui évangélise l'Église et sa mission. Je ne peux pas la définir sans relation au monde. L'Église n'est pas un monde à part.
Le monde et l'Europe traversent depuis plus d'un an l'épreuve de la pandémie de coronavirus. Vous êtes vous-même marqué par l'épreuve d'un cancer. Est-ce que la maladie est aussi l'occasion pour la société comme pour chaque personne dans son intimité physique même de sortir de cette tentation d'autosuffisance et de s'ouvrir à une forme de transcendance?
Oui. Je l'ai vécu moi-même. Il y a un texte dans le livre de l'Exode où le peuple de Dieu va sortir de l'Égypte. Le Seigneur se dit, ils devront traverser le pays des Philistins et ils vont retourner en Égypte. Le peuple doit faire un détour par le désert. Le désert est le lieu où on apprend des choses qu'on risque d'oublier, et parfois des choses importantes. Personnellement, pour moi, je suis devenu très très attaché aux psaumes. J'étais un peu obligé par ma maladie, j'avais plus de temps pour prier lentement, et j'ai découvert beaucoup de ces paroles, devenaient mes propres paroles, mon angoisse, mon espoir, mon cri. Et donc, ça a été pour moi un grand réconfort dans ma maladie, la prière et notamment la prière des psaumes. Mais j'espère aussi qu'après la pandémie, c'est le règne de la liberté. J'espère que ce ne sera pas une liberté qui nous rend indifférents pour l'autre. La liberté est liée à la fraternité. Il n'y a pas de vraie liberté sans fraternité. Servir le bien commun, avant tout.
Voilà, interrogé par Cyprien Vietz, le cardinal Joseph de Kessel, auteur du livre « Foi et religion dans une société moderne » publié aux éditions Salvator, était ce matin l'invité de Radio Vatican. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 13h pour les dernières informations du Vatican, de l'Église et du monde. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et un bon week-end.